décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 18, salut Manu.
Salut Christian.
Salut Luc.
Eh bien, nous retrouvons Christian, qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps, qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'éducation. Mais avant ça, on se lance sur la revue de presse, relativement légère. Numérama, le confinement pousse l'éducation nationale à regarder vers le logiciel libre, un article de Julien Lausson.
Dont on va parler juste après.
Ce sera notre sujet principal. Réseautelecom.net, comment valoriser les services de logiciels libres basés sur le cloud, un article de David Linticum.
Donc un vieux sujet, le cloud, donc l'informatique nuagique ou en nuage, et effectivement, le logiciel libre a sa place là-dedans. Il faut le mettre en avant, et c'est jamais assez mis en avant, mais pour le coup, il y a des articles, il y a des entreprises qui bossent là-dessus.
Le MAG-IT, les nouvelles attaques contre le logiciel libre, un article de Thierry Carrez.
Alors c'est un article un peu vague, malheureusement. Il aurait peut-être mérité d'être un peu plus en avant dans qu'est-ce qui se passe exactement quand il parle d'attaque. C'est une tribune d'un gars qui bosse pour l'industrie, pour une entreprise.
Il parle de licence restrictive notamment.
Oui, et puis du fait qu'il y a des gens qui bidouillent en utilisant du logiciel libre, mais en l'enfermant sous d'autres formes, notamment en faisant en sorte qu'il ne soit pas utilisable. C'est assez simple, mais finalement, ça reste techniquement du logiciel libre. Et c'est bien ce qu'il dit, la lettre et l'esprit.
The Conversation, les Fab Labs apportent des solutions concrètes et locales à la crise du Covid-19, un article de Kevin Lust.
Donc allez jeter un œil parce que c'est toujours pas mal, ça parle de matériel libre, d'innovation matérielle.
Au moins un article là-dessus toutes les semaines depuis
en
le
gros,
début.
On est en plein dedans. Donc là, les Fab Labs, les laboratoires fabuleux, eh bien oui, on est dedans, ça explose.
Notre temps, virus, organisation de défense des droits et avocats alerte sur le traçage numérique, un article de la rédaction.
Donc le traçage numérique dans le contexte du Covid, et effectivement, on peut envisager de tracer tous les citoyens pour voir qui est malade, qui est en contact avec qui. Ça lève quand même des gros problèmes de liberté. Et bien là, il y a des gens qui montent au créneau sur le sujet, sachant que la France a plus ou moins mal barré avec son projet de stop Covid centralisé. On ne sait pas où ça va.
Très bien. Donc Christian, tu es venu à nous en tant qu'administrateur de l'April, et tu participais il y a de nombreux mois maintenant. Et donc, on est content de te récupérer et tu vas nous parler de ce sujet de logiciels libres, de services libres et d'éducation, puisque tu as suivi ça de relativement près.
Absolument, et je suis très content d'être parmi vous, surtout pour une très belle nouvelle. Alors, nous sommes en période de confinement, c'est assez difficile pour tout le monde. Et puis, d'habitude aussi, les nouvelles du libre ne sont pas toujours drôles, avec les GAFAM qui nous embêtent et qui embêtent les gens. Et là, pour une fois, on a une super nouvelle. Le ministère de l'Éducation a mis en place une plateforme de services numériques libres pour les enseignants et les élèves. C'est fantastique.
Mais c'est étonnant, ça fait quand même quelques semaines que l'éducation nationale est à fond et qu'ils ont déjà mis en place plein de plateformes pour les profs et les élèves quand même. Voyons, Christian.
Alors, ils n'ont pas mis en place des choses pour les élèves ou les enseignants, ils ont dit qu'il y avait déjà des choses en place. Et c'est vrai. Il y a le CNED, qui est un centre national de l'enseignement à distance, où il y a des moyens donc informatiques, de salles de classe, de formation, etc. Il y a ce qu'on appelle les ENT, les espaces numériques de travail dans les écoles. Il y a d'autres moyens. Il y a aussi des libristes des enseignants libristes qui mettaient en place des moyens partagés dans les écoles. Mais globalement, il faut bien reconnaître que au début du confinement, tout ça, ça s'est écroulé. Ça n'a pas tenu la charge. Malgré ce qu'a pu dire le ministère de l'Éducation nationale, ça n'a pas tenu la charge. Et beaucoup d'enseignants ont été mis sur le côté. Beaucoup d'élèves ont été aussi mis sur le côté.
Alors, les ENT étaient réputés pour ne pas marcher avant la crise, quand même. C'est des choses qu'on avait entendu dire, c'est que même sans charge, ça marchait pas du tout, en fait.
Alors, il y avait des dysfonctionnements avant, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu d'énormes dysfonctionnements après, malheureusement. On aurait bien voulu que ça tienne la charge, tant pis, le but du jeu, c'est que ça fonctionne, mais ça ne fonctionnait pas.
Il y a combien de personnes qui se sont connectées, là, du jour au lendemain ?
Alors oui, il faut se rendre compte aussi de la dimension de la problématique. C'est 12 800 000 élèves, c'est 870 000 enseignants. C'est une problématique qui est phénoménale. Mais bon, on ne parle pas de n'importe qui là, on parle du ministère de l'Éducation nationale. Donc un ministère qui a beaucoup de moyens et qui normalement doit pouvoir fournir des solutions. Et puis en plus, c'est sa mission. C'est pas sa mission depuis le début du confinement. C'est sa mission quand même depuis un certain temps quand même.
Oui, mais là, problématique quand même toute nouvelle qui arrive. Et si ça marche pas, les profs, les élèves, ils ont bien trouvé d'autres solutions. Fortnite, Animal Crossing, ils se sont réunis ailleurs, quoi. Ils ont fait quelque chose.
Voilà. Oui, sur des tas de services proprio, Manu, tu trolles avec les jeux, mais bon, Il y a Discord qui est donc un service de discussion utilisé par les joueurs notamment. Et puis il y a les infâmes GAFAM, hein, et tout ça évidemment a été utilisé. Je me souviens que le CNED avait dit hop hop hop, ça y est, c'est bon, on s'est mis à niveau. Donc moi j'étais resté sur l'idée que bah ouais, ça marchait quoi.
Alors on a eu beaucoup de retours, de témoignages, pour nous dire que non, ça marchait pas. Alors bien sûr, devant ce niveau d'affluence, il a bien fallu leur laisser un peu de temps pour réagir aussi, il n'y a pas de souci, mais malgré tout, il y a encore des problèmes.
Alors moi, j'ai cru entendre que comme ça marchait pas directement sur l'éducation nationale, en plus de ça, il y a des bons petits gars associatifs qui étaient là, heureusement.
Oui. Alors, on a noté plein de dysfonctionnements. On a noté, par exemple, cette vague massive vers les GAFAM qui se sont régalés. Chouette, des nouveaux gens qu'on va pouvoir exploiter.
En plus des jeunes.
Formidable. Donc ça, c'était un dysfonctionnement. Un autre dysfonctionnement, faut pas oublier que les GAFAM, les services qu'ils proposent, ce sont des services à des entreprises pour exploiter les données personnelles.
Oui, alors du coup, ça me semble quand même important de le préciser. Parce que tu peux très bien dire, bon, les GAFAM, ok, mais la situation est exceptionnelle. Ils ont des trucs qui marchent. Donc, pourquoi ne pas y aller? C'est la réflexion simple.
Alors, oui, mais non. Ça ne marche pas aussi bien qu'on le voudrait, déjà. Parce qu'il y a des bugs. Par exemple, le Zoom avait une faille de sécurité qui servait à propager des virus. Ça exploite les données personnelles, la vie privée, les communications des gens qui sont enregistrés. Même le FBI a dénoncé l'usage de Zoom. C'est pour vous dire, quand le FBI s'y met, c'est que franchement, il y a quelque chose. Mais le fond, c'est que c'est une relation inéquitable. C'est-à-dire qu'ils vous vendent un service, ils vous disent pas ce qu'ils vont faire derrière, comment ils vous exploitent. Donc ce n'est pas équitable, ce n'est pas acceptable.
Alors, la plupart des profs se rendent compte de cela, maintenant en tout cas, et voient bien qu'il y a un souci à passer par des entreprises. Hein.
Je ne sais pas si c'est la plupart des profs, mais effectivement, même d'un point de vue légal, je pense que c'est très compliqué dans des écoles où maintenant, pour publier la moindre photo d'un gamin, il faut que les parents signent un formulaire avec leur propre sang, de dire, eh ben, pour faire de l'éducation à distance, on va forcer tous les gamins à signer chez Google, Amazon, Facebook ou je ne sais où, livrer leurs données, etc., alors qu'ils sont mineurs et tout ça. Donc, je pense qu'il y a de quoi avoir des sueurs froides d'un point de vue légal, quand même.
Effectivement, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opportunité pour faire prendre conscience aux enseignants que bah, y a des outils, c'est pas possible dans leur métier. Et il faut rappeler aussi que légalement, par exemple, dans les collèges, c'est le responsable d'établissement qui est responsable des outils utilisés par les enseignants et qu'il y a beaucoup de produits des GAFAM qui ne sont pas compatibles avec le fait que ça soit un directeur d'établissement scolaire qui puisse signer, c'est pas prévu. Donc ce genre d'outils ne sont pas compatibles avec la pratique des enseignants. Et du coup, donc il y a eu plein de dysfonctionnements avec une vague massive de gens qui ont été vers les GAFAM et puis il y a des gens, ils ont été vers des acteurs alternatifs, associatifs comme Framasoft. Ils ont même été encouragés par certains membres du ministère de l'Éducation à aller chez Framasoft. Bah, ça marche pas chez nous, bah allez là-bas. Hein. Nous, on n'est pas capable de faire notre mission. Bah, allez les voir eux, ils le font à notre place. Pourquoi on s'embêterait? Et en fait, Framasoft a dit non. Ils ont été catégoriques. Ils ont dit, ça nous fait mal de vous dire non, ne venez pas chez nous. Mais c'est pas leur mission. C'est pas leur objectif. C'est pas leur raison d'être.
Et c'est aussi qu'ils ont pas les moyens. On parle de millions d'utilisateurs. Et voilà, Framasoft reste une initiative associative destinée à démontrer que c'est faisable, mais ils n'ont pas les épaules pour voir arriver une vague aussi grosse.
Et ils considèrent qu'ils ne veulent pas l'argent. Si jamais le ministère voulait leur donner de l'argent, ils n'en voudraient pas parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur rôle de faire ça. Il y a des gens très compétents au sein du ministère de l'Éducation, et c'est vrai. Et du coup, ils ont dit non.
Au début, vous citiez les chatons en disant que les chatons les avaient accueillis. Donc, vous m'avez menti, c'est ça?
Alors, les chatons se sont sentis obligés, mais pas que pour le monde de l'éducation nationale, se sont interrogés. Alors, on va rappeler ce que c'est que le chaton. C'est
oui,
le collectif,
oui, tu fais bien,
hébergeurs,
ça fait pas mal.
Alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et donc, c'est un regroupement d'une soixantaine d'hébergeurs de services numériques libres en ligne. Et bah, le collectif s'est bien sûr posé la question de savoir ce qu'il pouvait faire. Et donc, il s'est lancé dans la mise en place d'une page web qui s'appelle entraide.chatons.org, qui permet d'accéder à des services numériques en ligne et de les répartir sur l'ensemble des membres pour absorber la charge. Parce que quand on a vu que chez Framasoft, ils étaient submergés, on s'est dit, oulala, faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas dire aux gens, allez sur les chatons. Voilà. Donc, on a une belle page. Franchement, elle est magnifique. Et il y a eu un deuxième axe de travail qui a été de dire, on va faire une lettre ouverte au ministère de l'Éducation nationale. Puis on va leur dire, ça serait bien là, il y a plein de trucs qui marchent pas, ça serait bien que vous fassiez votre boulot et que vous le fassiez bien et on vous encourage à le faire, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Alors ça a été signé par quelques membres du collectif, mais au moins le message a été passé et de ce côté-là, le collectif donc accueille tout le monde, bien sûr, mais aussi encourage le ministère de l'Éducation nationale à faire ce qu'il faut.
Et du coup, ils ont été entendus.
Alors, nous espérons que ça a aidé à faire passer le message. Ça, c'est le rôle hein, de chacun, de s'exprimer, de communiquer, d'encourager. C'est voilà. Mais on a eu la magnifique surprise de voir que une plateforme apps.education.fr a été ouverte et qui propose donc 6 services numériques libres majeurs en ligne. Donc si ça fait pas, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait c'est vraiment 6 produits bien choisis, très pertinents et tout à fait adaptés aux besoins des enseignants et des élèves.
Donc des logiciels libres mis en place par l'éducation nationale pour les profs, donc avec une infrastructure suffisamment solide pour servir beaucoup de monde, je suppose.
Ah, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, c'était un projet qui était déjà en cours, mais qui devait être expérimentalement mis en ligne pour l'année prochaine. Donc, bah oui, au sein du ministère de l'Éducation, il y a des gens qui essaient de construire des solutions et de faire ça bien, notamment avec du logiciel libre, et qui travaillent, qui ont des projets, des plannings, et du coup, là, ils sont retrouvés confrontés à donc l'urgence sanitaire, et de se dire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Et donc, du coup, ils ont essayé de monter la plateforme tout de suite pour la mettre en ligne. Il se trouve que, pour y arriver, donc ils ont utilisé des centres de serveurs d'OVH et de Skyway, notamment, mais du coup, ils ont monté une énorme plateforme, avec des centaines de serveurs, pour pouvoir proposer ces services à l'ensemble des académies du ministère de l'Éducation nationale.
La mise en place de services est effectivement une très bonne nouvelle, comme tu le disais au début, et ça tranche pas mal avec l'accord entre le ministère et Microsoft qu'on avait conspué ici il y a quelques temps déjà.
Et là, on constate que cet accord n'a rien servi pendant la crise. L'urgence sanitaire, ils n'ont servi à rien. Donc, une fois de plus, n'attendons rien des GAFAM.
En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que l'éducation nationale, comme toute grosse structure, n'est pas un monolithe. Il y a des gens avec des sensibilités différentes. Certains roulent pour Microsoft et ont plutôt, et d'autres, hein, et ont plutôt eu le vent en poupe. On voit que quand l'heure est grave, eh ben, le libre est là. Et ça démontre aussi que le libre avance grâce à tous les gens qui sont sur le terrain.
Les pénibles.
Les pénibles qui disent « Ah oui, mais il y a du logiciel libre, ah oui, mais on peut faire ceci, cela. » Et qui se mobilisent, qui se bougent les fesses. Parce que je suppose que pour mettre ça en place en quelques semaines, en quoi, une semaine, deux semaines, ça a dû être beaucoup, beaucoup de travail. Ils n'ont pas dû beaucoup dormir. Et voilà, donc un grand bravo à eux. Un grand bravo à tous les gens qui poussent le libre dans leur milieu. Et je pense que c'est un certain nombre d'entre eux qui doivent se sentir un peu isolés. Mais je pense que c'est le petit travail de fourmi qui fait toute la différence.
Et qui là, en ce moment, se voit. Parce que là, en ce moment où tout le monde est sur Internet et tout le monde est sur son ordinateur, sa tablette, son téléphone, bah, passer par des outils dans lesquels on peut avoir un peu plus confiance que dans ces fameux GAFAM qui, clairement, nous utilisent. Hein. On est leur bétail, il n'y a pas de doute là-dessus. Bah, là, on peut avoir vraiment des briques qui sont à notre service, qu'on peut utiliser, trifouiller, bidouiller, jeter, réinstaller. On peut tester des alternatives, c'est toujours bien. Et on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Hein. En fait, c'est même brillant comme moment pour l'informatique libre et tout ce qui est libre en général.
Et pour le ministère, parce que c'est la preuve que c'est pesable, que ça fonctionne, et avec un niveau de dimensionnement impressionnant.
Très bien. Eh bien, Christian, merci beaucoup pour toutes tes explications. On espère te revoir bientôt dans Décryptualité.
À bientôt.
Salut. Salut.